Esprit de réforme. Magazine de la rédaction du journal Réforme.
Il y a des jours où l'on a le moral comme le climat, donc évidemment on a besoin de soleil. Eh bien, c'est justement une grande chance, car nous recevons un sociologue ensoleillé. C'est Jean-Pierre Le Goff, un homme qui manie à la fois les concepts et l'analyse et l'observation de ses contemporains avec tout à la fois de l'esprit de sérieux et de l'humour. Bonjour Jean-Pierre Le Goff.
Bonjour.
Merci de venir à cette antenne pour nous parler des élections législatives et spécifiquement du phénomène qui s'installe durablement dans la vie politique, qu'est le Front National. Car, comme nous l'avons demandé dans les colonnes du journal, voici maintenant 4 ou 5 semaines, peut-on guérir du Front National ? C'est une question qu'on peut se poser et à laquelle, évidemment, on va tenter non pas d'apporter une, mais plusieurs réponses. En tout cas, comme chaque semaine, je le signale aux auditeurs, ils peuvent intervenir en direct en téléphonant au 01 45 72 6000. 01 45 72 6000. Alors, ces élections législatives, on en parle peu, et pourtant, elles existent. Elles vont avoir lieu dimanche prochain pour le premier, dimanche 17 pour le second tour. N'est-ce pas plutôt une période de faux plat et donc de faux calme à laquelle nous assistons ?
Oui, je partagerai assez ce point de vue, c'est-à-dire que, notamment en ce qui concerne la gauche et le gouvernement, on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. Par contre, il y a des choses qui ont changé et qui sont quand même importantes dans le style quand même présidentiel. On est passé quand même du manager agité à quelqu'un qui, je pense, pour l'instant, me semble avoir trouvé une distance raisonnable et une stature qui est très différente. Donc c'est du style, mais ça compte beaucoup.
Oui.
Alors avec quelques cacophonies quand même qu'on voit, mais qu'on peut attribuer à la jeunesse de ce gouvernement, ce qu'on voudra. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas encore, les décisions ne sont pas encore prises.
Oui.
Donc
oui.
On est dans un flou. Je ne dirais pas qu'on a affaire à de la synthèse, mais enfin, on ne voit pas encore très nettement les grands choix qui vont être pris. Quoi qu'il a été dit qu'on tiendra ses promesses. Donc on est dans cette espèce de zone intermédiaire avec des résultats déjà annoncés. Je serais d'ailleurs curieux de regarder combien il y aura d'abstention.
Alors, vous dites une première cacophonie. N'est-ce pas justement le cas des premiers gouvernements, du premier gouvernement d'un président nouvellement élu ?
Oui, mais en même temps, ce gouvernement nouvellement élu et ce président a aussi des alliances, un système d'alliances, notamment avec les écologistes.
Oui.
Et que on sait aussi, ça c'est un premier point, le second point qu'on peut dire, c'est qu'il y a tout un... Je vais dire, des thèmes sociétaux,
oui,
qui ont été avancés pendant la campagne, qui, je pense, sont pour l'instant un peu sous le boisseau. Mais il va y avoir des choix à faire à la fois sur le plan économique et social face à une situation quand même qui est redoutable, c'est-à-dire une situation où les licenciements sont déjà là. Et là, on va voir très concrètement. Mais à côté de ça, vous avez aussi un certain nombre de thèmes qui ont été annoncés. Je pense à l'homoparentalité, je pense à l'euthanasie. On refuse le mot, mais on dit on ira un peu plus loin que la loi Leonetti, donc on ne sait pas trop. Il y a le vote des immigrés aux élections locales.
Oui.
Bon, il y a peut-être d'autres thèmes, mais en fait, le cannabis qui s'est invité dans la campagne de
oui.
façon ahurissante
oui. Oui, oui.
et non maîtrisé, visiblement, ça fait aussi partie des thèmes un peu des écologistes qui,
oui.
ne l'oublions pas, ne sont pas simplement sur les thèmes de la défense de l'environnement, de la planète, mais sont aussi sur des thèmes très sociétaux et culturels.
Et libertaires, on pourrait dire.
Très libertaires, hein. C'est comme si, d'une certaine façon, sans vouloir pousser à l'extrême et sans injurier la ministre, mais les anarchistes étaient dans l'appareil d'État, si vous voulez. On arrive en jean, c'est tout à fait nouveau, inédit,
oui,
d'une certaine façon.
Oui.
Et c'est le problème du rapport à l'institution. Je ne parle pas, évidemment, de l'ensemble, mais c'est vrai qu'arriver en jean, cool, etc., ça fait un peu libertaire arrivant dans l'appareil d'État et des libertaires qui insistent beaucoup sur la dimension de la société et qui ont une tendance, mais c'est pas simplement eux, je pense que c'est vraiment une tendance nouvelle depuis des années, la société dans un rapport très ambivalent à l'État, c'est-à-dire très critique, c'est-à-dire on se méfie beaucoup de l'État,
On s'en détourne et on s'en détourne.
Et alors, pour la première fois, on est dedans. Et là, on est confronté à ce qui est possible dans une situation historique donnée et à des choix qui peuvent être drastiques. Ça s'appelle l'apprentissage de la politique.
Bien.
En démocratie, alors, du moins.
Jacques nous téléphone. Je vous propose que nous l'écoutions. Bonjour, Jacques. Merci de téléphoner.
Bonjour, je vous remercie de me donner la parole sans trop attendre parce que je suis sur la route donc je me suis arrêté.
Ah, mais alors voilà.
J'écoute avec intérêt le début de l'émission, mais il y a dans le titre, dans l'annonce initiale, quelque chose qui m'ahurit même un petit peu. Peut-on guérir du Front National ?
Oui.
Est-ce que le Front National est une maladie ? Ça me fait penser au traitement de l'avortement, en appelant les choses par leur nom, peut-on guérir d'une grossesse, hein, et l'avortement et toutes les mesures, etc. Non, je crois qu'il faut... Le Front National a des excès de langage, des excès d'attitude, etc. Mais si des gens votent Front National, c'est que le Front National pose des bonnes questions et auxquelles les autres partis ne répondent pas.
Cher Jacques, vous avez 100 fois raison d'intervenir de cette manière, et quoique... évidemment, je l'ai posé, j'assume d'avoir posé cette question, mais vous avez 100 fois raison de me reprendre. Et si j'ai repris cette question, tout simplement, c'est parce qu'elle était le point de départ d'un article paru dans Réforme il y a 4 ou 5 semaines. Mais bien évidemment, mon objectif et notre objectif dans cette émission n'est pas de stigmatiser les gens, de les enfermer dans une stigmatisation morale, mais de réfléchir tous ensemble, avec tous les auditeurs et vous-même bien sûr, aux raisons pour lesquelles les gens s'inscrivent dans cette tradition et aux raisons pour lesquelles ils se mobilisent. Je vous souhaite en tout cas un très bel après-midi.
Je vous remercie.
Au revoir Jacques. Alors Jean-Pierre Le Goff, je suis sûr que vous avez des choses à dire à partir de cette intervention.
D'abord sur la dimension, j'allais dire guérir et un peu pathologique, je pense que c'est d'ailleurs quelque chose qui est plus large. Par exemple, on parle volontiers de phobie aujourd'hui.
Oui.
L'islamophobie, la judéophobie, la christianophobie. Enfin bon, il y en a plein si vous voulez. Et je ne vais pas reprendre ce que disait Philippe Muret, mais il dit la phobie, ça se soigne généralement, on met en hôpital psychiatrique à la limite, quoi. Donc je pense qu'effectivement... Il y a une tendance comme ça. Alors, en ce qui concerne le Front National, il faut d'abord, à mon avis, reconnaître une chose. Ensuite, voir ce qui est dit, les réponses qui sont données aux problèmes qui sont soulevés. Je pense qu'il y a une série de problèmes soulevés par Marine Le Pen, c'est-à-dire en d'autres termes, elle n'est pas la seule. Marine Le Pen s'engouffre dans le fossé existant depuis des années, fossé qui n'a cessé de se creuser entre une partie de la classe politique et, disons, une grande partie des citoyens. D'autres, pour être plus concret, elle met, j'allais dire, du sel sur un certain nombre de fractures, c'est-à-dire qui sont tout à fait réelles. Et la façon dont on viendra sur la façon de combattre, quand on parle de Front National, comment s'y prend-on avec cette chose ? Mais je pense que depuis des années, la gauche en particulier s'y est très mal prise. C'est-à-dire qu'elle a placé uniquement le problème sur un plan moral, je dirais, coupé un peu des réalités, ne distanciant pas les problèmes posés de la dénonciation morale, et on sait que ce qui en est advenu, c'est-à-dire depuis des années, et je pense que c'est pas fini, en France, mais on pourra parler aussi de l'Europe, il y a une implantation maintenant, l'extrême droite est là, et je pense qu'elle va se développer si on continue de dénoncer moralement les choses, avec des schémas qui, à mon avis, n'ont pas compris la nouveauté de la situation, c'est-à-dire qu'on raisonne, une partie de la gauche du moins, parce que quand même ça évolue, hein, mais une partie de la gauche raisonne encore avec les anciens schémas, pour faire bref, de l'antifascisme, qui date des années 30.
Oui.
Alors, avec Marine Le Pen, ça devient très compliqué, puisqu'elle se réclame ouvertement de la République, alors on va aller chercher le fait qu'elle a été dans un bal, etc. Oui, il y a toujours des restes.
En Autriche. Oui,
et puis il y a son père, donc en Autriche, est-ce qu'elle connaîtrait pas le cousin de l'ancien SS, je caricature un peu, mais bon. Alors là, on est dans du sûr, si vous voulez, hein. On est dans du solide, et oui, on vient dessus, oui, et oui. Voilà, je vous l'avais bien dit, le fascisme. Écoutez, ça fait à peu près combien de temps qu'on entend le fascisme naissant, remontant. Ça, c'est des anciens schémas. Pourquoi ça marche plus? Non pas qu'il n'y ait pas des beaux restes, si vous voulez, mais il ne faut pas confondre le Front National, par exemple, avec d'autres groupes existants.
L'Aube, le parti grec,
voilà. Le parti anti-gay, faut regarder. C'est-à-dire, c'est eux qui font la police dans certains quartiers, et c'est la ratonnade. C'est-à-dire, c'est la chasse aux immigrés physiquement. C'est-à-dire, on les tape, quoi. Hein. Et donc, d'ailleurs, avec un phénomène tout à fait inédit et inquiétant, c'est que c'est le problème de l'État. De l'autorité de l'État, sa force, sa présence, son autorité. Si l'État est faible sur un certain nombre de choses, qu'est-ce qui se passe? Et notamment, ils ont affaire à un certain nombre d'immigrés clandestins qui squattent un certain nombre de logements dans les quartiers. Ouais. Donc, ça fait un peu... Bon. Et les habitants n'en peuvent plus. Et aujourd'hui, il peut y avoir un réflexe consistant à dire, j'ai pas la peine d'appeler la police parce que la police ne fait rien. Et on va téléphoner à ce groupe d'extrême droite. Oui. Je signale d'ailleurs que d'une certaine façon, cette extrême droite là, qui est quand même là on peut revenir sur des schémas classiques, si vous voulez, hein.
Néo-nazi,
fait la même chose, fait un peu la même chose que les groupes islamistes extrémistes, c'est-à-dire qu'ils font de l'ordre et ils font aussi du social là où l'État ne joue plus forcément le rôle. Et ça, je trouve que c'est un vrai danger. Alors la spécificité du Front National, si vous voulez, avec Marine Le Pen, on voit bien. Qui a une volonté de s'arracher, mais que, excusez-moi l'expression, j'espère, papa est toujours là, d'une certaine façon, hein. Et mais quand
le
même.
Le surmoi est toujours là, vous voulez
oui,
dire.
Oui, oui. Alors, cela dit, il importe de prendre la mesure du changement de discours, sur quoi il porte.
Oui.
Moi, ça m'a beaucoup frappé parce que j'ai lu, dans le texte, si j'ose dire, Marine Le Pen, il faut la lire.
Bon.
J'ai été surpris. Surpris par plusieurs choses. D'abord, le fait d'un nombre de références tout à fait nouvelles dans l'extrême droite. Si vous voulez, je peux vous en lire quelques-uns.
Oui, oui.
Jean-Luc Gréau, économiste, sur la question du protectionnisme. Vous avez Lipovetsky sur l'ère du vide, Marie-France Garraud, ça, bon, sur l'Europe, ça. Mais enfin, Franklin Roosevelt, Maurice Allais, Emmanuel Todd, Karl Marx, évidemment, Pierre Mendès-France, De Gaulle, n'en parlons pas, Dany Robert Dufour, qui écrit des choses intéressantes, Serge Halimi, du Monde diplomatique,
Marcel Gaucher aussi,
Jean-Claude Michéa, Baudrillard, Elisabeth Badinter, Victor Hugo, Jaurès.
Des intellectuels de gauche, des grandes figures de la gauche traditionnelle, de grands écrivains de gauche, vous.
Il y a un aspect, et c'est ça, c'est la première chose qui m'a frappé. Deuxième chose qui m'a frappé, je vais être un peu brutal, quand vous lisez du Marine Le Pen, il y a des pages entières, moi je pourrais vous en extraire des trucs, vous dites, bon, je vous lis ça, c'est de qui? C'est de qui? De Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon? Ou de l'extrême gauche? Et là, ça devient un peu délicat, si vous voulez. Par exemple, le capitalisme libéral, l'ultralibéralisme, l'emprise libérale sur les esprits, le modèle américain, l'hypercapitalisme. Alors, il y a le mot hyper, vous voyez, et là, c'est hypercapitalisme, hyperclasse mondialisée, hyperlibéralisme. On en rajoute, ça, c'est un phénomène de génération, les nouvelles générations emploient le mot hyper. Mais vous êtes par une entrée tout à fait inédite qui est la mondialisation capitaliste.
Donc au fond, vous dites que là où Jean-Marie Le Pen incarnait une extrême droite politiquement traditionnelle, fasciste et économiquement neuve, puisqu'elle s'inscrivait dans le libéralisme, vous dites que Marine Le Pen, au contraire, va chercher à gauche sa doctrine politique et, pas sa doctrine, mais des concepts, des morceaux de concepts, pour donner le change et pour apparaître là comme une personnalité autre.
Alors, est-ce que c'est donner le change? Est-ce que le terme est exact? Ça devient
c'est
un
une
peu
question.
Voilà. Là, ça devient difficile. Je pense que c'est, j'allais dire, non, je suis pas dans la tête de Marine Le Pen, mais pour elle, c'est pas donner change, c'est provoquer une mutation. N'oublions pas aussi la façon dont elle s'inscrit, elle se réclame de la République, de la laïcité.
Oui.
Elle essaie de mettre hors de ses rangs tout ce qui reste un peu nostalgique, néo-nazi, pétainiste, trop voyant, etc. Bon.
Alors,
quand même se réclamer de De Gaulle. Enfin, n'oublions pas, quand même. Il faut quand même le faire, si j'ose dire, par rapport aux origines de ce mouvement
bien
et notamment
de
son père.
Bien sûr.
Je veux dire, bon. Alors voilà. Donc, on a affaire à quelque chose d'assez bizarroïde. Et qui, alors moi, ce que je pense, mais c'est une analyse très particulière, c'est-à-dire qu'il y a, et ce n'est pas le seul cas, pour moi, ça correspond à une volonté, on la trouverait aussi dans les autres pays européens, sous des modalités nationales particulières, d'une adaptation de l'extrême droite, comme d'autres d'ailleurs partis l'ont déjà fait, à ce que j'appellerais une post-modernité, pour faire très bref, enfin, j'insisterai plutôt sur la dimension que tout peut être dit, d'une certaine façon, sans grand souci de cohérence, c'est-à-dire qu'on réadapte un discours qui a beaucoup d'aspects patchwork, si j'ose dire.
D'accord.
C'est-à-dire, par exemple, les citations me rappellent, excusez-moi, beaucoup de... il se trouve que je suis quelques étudiants, mais on a affaire aussi à du collage de citations, beaucoup, vous voyez, on demande, mais quelle est la cohérence du tout, vous voyez, où il y a des bouts qui sont collés, alors évidemment...
Ils vont sur Internet, vos étudiants, vous voulez dire
Oui, mais tout le monde le constatera. Oui, je pense que c'est l'air du temps qui est comme ça. Donc, il y a un aspect qui est très surprenant quand on rentre dans ce discours, c'est le patchwork. Patchwork des citations, et puis en même temps, entrée par l'économisme, le capitalisme, les marchés. Alors la question qu'il faut se poser, et c'est un peu celle que je me suis posée, ça correspond à quoi? On peut dire que c'est une opération de récupération, de changement d'image.
Oui.
Certes, c'est un premier niveau d'analyse, je ne la nie pas. Cela étant dit, je pense que quand on a dit ça, on n'a pas assez approfondi la question, parce que ce n'est pas un changement simplement tactique, c'est quelque chose qui correspond à un changement réel. Pour moi, c'est une nouvelle entrée tout à fait adaptée au nouvel air du temps d'un certain nombre de thèmes de l'extrême droite. Alors comment on peut les retrouver dans tout ce patchwork? C'est ça la question. Mm-hmm. Quand vous lisez bien Marine Le Pen, il y a quelque chose qui quand même qui apparaît. Vous êtes dans une logique d'hyperlibéralisme, d'hyperfinanciarisation, d'énonciation de la dictature des marchés,
oui,
etc.,
oui.
Hypermondialisation, avec une représentation du monde, je vais être un peu brutal, mais je la trouverai aussi du côté de chez... Quoique c'est pas du tout pareil, Mélenchon, je fais une différence, c'est sur la xénophobie.
Oui.
Je suis très critique mais sur Mélenchon, il n'est pas xénophobe. Mais sur Marine Le Pen, vous avez une vision, excusez-moi de le dire, mais un peu guignol de l'info. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui tirent les ficelles. Vous savez, c'est marionnettes.
La théorie
Stallone.
Du complot.
Alors voilà. Mais c'est les États-Unis.
Oui.
C'est les méchants États-Unis qui tirent la ficelle du monde, si vous voulez. Hein. Et donc, il y a quand même cette idée, quand vous lisez tout ça, qu'on est dans une logique de complot, d'une part. Deuxièmement, on retrouve quelque chose qui est... Parce que ce mondialisme, ce libéralisme économique, il est quand même mu par une chose qui est derrière, mais qui est présente. C'est la fin des patries, la fin des nations.
Alors justement, je voulais vous poser cette question. On a le sentiment que le succès de ce patchwork, pour reprendre votre expression, est fort parce que précisément les gens ont peur de la perte. Peur de la perte des repères, des frontières, des nations, et ensuite, évidemment, de ce qui constitue leur vie.
Oui, mais je pense qu'il y a deux choses. C'est-à-dire, Marine Le Pen prend en compte des éléments de la réalité qui ont, à mon sens, trop longtemps été sous-estimés par la gauche. Non seulement sous-estimés, mais enfin, c'est allé loin dans les années 80-90.
Oui.
Par exemple, je ne prendrai qu'un exemple, Black Blanc Beurre. Mm-hmm. C'est-à-dire l'introduction d'une dimension raciale, qu'on le veut, ou ethnique.
Dans l'identité.
Dans l'identité. Vous me direz d'ailleurs...
National.
Oui, mais regardez ce phénomène, si je m'arrête sur ce point. Vous avez des ministres aujourd'hui, où vous avez des journaux, je pense notamment à Libération, pour ne pas le citer, Parité, Diversité, les cabinets blancs de la République. Jamais en France, on avait parlé comme ça. Moi, j'étais très surpris,
oui.
Si vous voulez. Ça devient, et je crains...
Une dérive communautaire ?
Ethnique, quasiment.
Ethnique.
Et écoutez, on a assisté à des choses très étonnantes dans la façon de combattre le racisme. Quand je vous dis Black Blanc Beurre, ça a été de fait, je
Bien
ne parle
sûr.
Pas des bonnes intentions, conçu comme opposé au bleu-blanc-rouge.
Oui.
Bon. Et à l'époque, maintenant, il y a beaucoup de drapeaux bleu-blanc-rouge, mais dans des cortèges qui
Bien
existaient
sûr.
À des moments donnés, le drapeau bleu-blanc-rouge était assimilable au Front National.
Bon. Tout à fait.
Et donc là, heureusement, la gauche, on n'est plus dans les années 80.
A pris conscience
une partie de la gauche,
oui.
Parce que je pense qu'il y a l'autre gauche est toujours là, et que un des enjeux de la période, c'est si François Hollande, mais pas simplement François Hollande, est capable de rompre clairement et d'arrêter les vastes synthèses, si vous voulez. Bon, je n'en sais rien, l'espace est ouvert, mais revenons sur cette question des blancs et des noirs. Je trouve qu'il y a quelque chose, il y a une façon de combattre le racisme qui réintroduit la dimension raciale, si vous voulez, ou ethnique.
Oui.
Et qui, moi, personnellement, me choque énormément. Mais le plus problématique en l'affaire, c'est que vous avez des gens, on se réclame de la République. Or, pour moi, que je suis assez, je dirais, républicain, attaché, par exemple, à l'idéal de la citoyenneté républicaine, ou disons, à l'idéal de la représentation politique républicaine, en quoi consiste-t-elle ? Elle consiste en un idéal par lequel l'individu se met au-dessus de ses communautés premières d'appartenance, que ça soit la famille, enfin je ne parlerai pas de la tribu, hein, mais aussi les religions, sa propre religion. Tout ça existe, bien évidemment, pour se penser, idéalement, comme un citoyen à égalité dans le champ du débat politique et une voix égale une voix.
Oui.
C'est-à-dire que la citoyenneté républicaine est intimement liée à la dimension individuelle, mais pas individuelle repliée sur elle-même, qui est un individu
projection.
Qui se pense comme un élément d'une collectivité, donc qui transcende ses communautés. Eh bien, imaginez-vous le fait, par exemple, aujourd'hui, que des ministres nous parle de la diversité, mais la diversité, ça veut dire quoi? Alors on peut et on n'en est pas à la mettre dans la Constitution, mais ou de la parité. Mais la parité, moi je suis pour, si vous voulez, mais faut arrêter d'en faire une espèce d'obsession où les femmes deviennent potiches. Ça me choque. Par exemple, j'ai reçu sur là où j'habite pour le vote aux législatives quelqu'un qui est mis en avant qu'on n'a jamais vu. Il se trouve qu'elle est noire, mais moi ça m'est complètement égal. Mais pourquoi on l'a mis là? Là, ça devient vraiment pervers. Vous pouvez avoir des effets pervers dans cette logique de bonnes intentions, vous voyez.
Alors, si vous me le permettez, j'aimerais qu'on revienne à la question d'origine, c'est-à-dire la question de la perte. En tant que sociologue, je sais que vous préparez un livre sur l'histoire d'un village. On a le sentiment qu'aujourd'hui, justement, ce Front National, qui était jusqu'à présent un phénomène urbain, est en train de devenir un phénomène rural, de s'installer durablement, en tout cas dans les campagnes françaises, notamment du fait du sentiment de peur d'une perte des repères et des non pas du fait de la présence même réelle ou symbolique de quelques étrangers, mais de la peur de perdre les repères du village.
Oui, je pense qu'il y a un phénomène de bouc émissaire sur les immigrés, même en grande partie sur l'islam, même s'il y a des problèmes réels, mais il y a un phénomène de bouc émissaire, et j'allais dire de lynchage, mais ça c'est toujours, vous l'avez quand même toujours, c'est-à-dire que malgré le patchwork, moi je pense qu'il y a un certain nombre de thèmes structurants qui se redéploient différemment, mais qu'on va retrouver,
bien sûr.
Qui sont classiques de l'extrême droite. Donc l'extrême droite change, s'adapte à la modernité, comme les autres partis s'y sont adaptés,
mais
vous trouvez, vous trouvez un certain
nombre
de thèmes qui restent structurants. Bon, alors en ce qui concerne la France d'avant, je pense qu'il y a une crainte, une angoisse d'une dissolution de l'identité pour des gens qui sont en situation de faiblesse. Il faut jamais. Je pense qu'on a beaucoup de mal à affronter un état de la société, enfin des zones entières de la société. Moi, je parle volontiers de déstructuration anthropologique. C'est-à-dire qu'il y a la conjugaison de phénomènes économiques et sociaux, effet du chômage de masse, qui sont quand même redoutables sur les individus et les collectivités.
Oui.
Là où il y avait une vie, si vous voulez, où il y avait des rapports sociaux dans des régions entières, c'est quand même des déserts. Là où l'individu avait l'épreuve du réel en travaillant, c'est-à-dire rentrer dans des rapports de coopération et de conflit avec les autres. Le travail était un élément structurant de la sortie de l'adolescence, ne l'oublions pas. D'ailleurs, il s'accompagnait d'un certain nombre de rituels. Il y avait aussi le service militaire avant, Et puis il y avait aussi le mariage qui passait, qui permettait... Bon, revenons sur le travail. Eh bien, le travail, vous apercevez que pour des pans entiers de la population, c'est extrêmement fragilisant. Hein, on est dans une situation où il n'y a pas de travail, notamment les jeunes. S'y rajoutent une dimension qui s'appelle la famille. Alors, on peut dire, ah oui, mais la famille traditionnelle. Mais enfin, on parle de famille recomposée. Moi, je parle de famille décomposée. Alors, je comprends que pour des catégories sociales particulières, ces familles décomposées, ils ne peuvent pas bien voir le problème parce qu'eux-mêmes sont dans des familles de ce type-là, mais ayant un certain niveau de culture, notamment psychanalytique et psychologique, et ayant les moyens d'aller chercher les psychologues et étant habitués à un certain type de vocabulaire psychologique, on essaie de s'en sortir un peu comme ça.
Oui.
Mais quand vous regardez des catégories sociales entières où une forme de misère économico-sociale se conjugue avec des déstructurations familiales, des désaffiliations, c'est-à-dire des choses, on ne sait pas trop le père de qui, etc. Enfin bon, auxquelles je rajouterai une dimension évidemment, excusez-moi, sur laquelle Marine Le Pen, la France, enfin une certaine idée de la France, était aussi protecteur. Donc, quand vous regardez les murs, pour reprendre une expression de Hannah Arendt, les murs de protection que constituait la famille, l'appartenance de classe au monde ouvrier, et d'une certaine façon, je dirais l'appartenance nationale, qui formait des murs de protection face à un monde qui paraît chaotique, c'est-à-dire on essaie d'ordonner le monde, on essaie de retrouver. Bon, disant ça, je ne suis pas pour dire que ça ne change pas.
Bien sûr, mais vous dites que ces murs à la fois protégeaient et permettaient aux gens de se construire aussi.
Voilà, et on permettait aussi des individus autonomes à l'intérieur de ça. Ce n'est pas pour dire revenons... Bon. Ça a été quand même passablement érodé en un demi-siècle. Je pense que les bouleversements sont considérables. Et en ce qui concerne le travail, excusez-moi, mais ça fait l'impuissance des politiques est flagrante.
Et c'est vrai notamment dans les zones rurales.
Alors, le problème qui est posé, c'est qu'aujourd'hui, j'ai appelé dans un de mes livres « La France morcelée ». C'est qu'on a affaire à des catégories très particulières, à la fois socialement, mais aussi culturellement. C'est-à-dire les fractures, si j'ose dire, sont à la fois sociales, mais elles sont en même temps culturelles, au sens large du terme, c'est-à-dire un certain rapport à la vie, aux autres, à l'éducation des enfants, un rapport au pays, à l'Europe, au monde, si vous voulez, et sans parler de l'expression artistique,
bien sûr.
C'est un sujet en soi,
oui,
mais là aussi il y a des sacrées fractures. Donc on est dans un pays, moi j'appelle ça une France morcelée, où coexistent à l'intérieur d'un même espace des catégories sociales ayant leur propre réseau, si vous voulez.
Oui,
bon.
Oui.
Parmi ces grandes fractures, je pense que Christophe Guy, lui, a souligné un point qui me paraît absolument fondamental, c'est la séparation entre, on va dire, les grandes métropoles, composées de catégories sociales relativement adaptées ou globalement adaptées à une forme de mondialisation pour qui la mondialisation ne leur fait pas si peur que ça, qui ont une certaine type d'ouverture culturelle,
oui,
mais qui en même temps ont des situations économico-sociales quand même, je dirais pas privilégiées, mais vivre aujourd'hui dans le centre de Paris, vivre même à Lyon, vivre même dans certains quartiers, c'est de moins en moins évident. Ce qui a amené des catégories entières de se déplacer, c'est même pas l'opposition entre d'un côté ces populations quand même, je dirais, un peu privilégiées des grandes métropoles et les banlieues, qui sont avec une vision des banlieues,
oui,
d'ailleurs,
oui,
qui est fausse, complètement désocialisées. Vous avez le choix entre...
Oui,
Il se trouve qu'une bonne partie des catégories sociales ont échappé, ne sont pas rentrées dans ce cadre-là. Et ceux-là, d'une certaine façon, ce sont ceux-là qui sont les invisibles. Qu'est-ce qu'a dit Marine Le Pen? Elle a repris quasiment... Parce que
ce terme
vient aussi de Jean-Christophe Guy, lui. Il parle aussi des invisibles, qui étaient dans la campagne, les néo-ruraux, qui se sont déplacés,
oui,
etc.,
oui,
et qui ont un rapport, à la politique, qui ont un rapport même à la vie, qui est très différent de ceux qui détiennent, y compris le pouvoir médiatique. Et, bon, alors qu'a fait Marine Le Pen? Elle a aussi essayé de tenir compte de ça. Cela dit, il faut aussi dire que la gauche, et notamment... pas n'importe laquelle, président Hollande, enfin, le vote a aussi touché ces catégories, puisque la gauche n'est pas complètement non plus absente de ces catégories-là.
Oui, j'allais dire que, justement, François Hollande est parvenu à gagner parce qu'il a réussi à s'adresser à cette frange populaire de la population que la gauche avait un peu délaissée, quand même.
Eh ben, elle l'avait largement délaissée. Non seulement elle l'avait largement délaissée, mais elle les avait globalement, je dirais, depuis les années 80. Enfin, il y avait une tendance à gauche à les considérer comme des beaufs, avec une vision tous racistes. Alors qu'en plus, à l'époque, et ça devient moins vrai aujourd'hui, les mariages mixtes étaient encore importants, alors qu'ils le sont moins aujourd'hui. On a l'impression qu'on va y arriver, si vous voulez.
Alors, Raymond Barre disait... Jadis, maintenant, voilà, on peut dire jadis à propos de Raymond Barre, l'immigration n'est pas un problème car l'intégration se fait quoi qu'il arrive. Partagez-vous ce constat?
Ben, je pense qu'entre le moment où cette phrase a été dite aujourd'hui, le monde a changé. Le monde a changé de plusieurs points de vue. D'abord, en ce qui concerne l'immigration, premier constat. Après, alors je sais que c'est des constats délicats, mais je ne confonds pas ces constats avec l'exploitation qui en est faite. Par l'extrême droite ou par l'extrême gauche, du reste, à front renversé, on pourrait dire, entre les deux.
Oui.
Mais premier constat, les Trente Glorieuses sont un peu derrière nous. c'est-à-dire une période et de plein emploi et un appel à manque de main d'œuvre.
Bon, là, on vit les 40 difficultueuses.
Voilà. Alors, il reste un problème, c'est qu'il y a un certain nombre de métiers qui sont pas pourvus et ils sont pas pourvus. On dit il y a du travail, on ne comprend pas parce que d'une certaine façon, ils sont assez dévalorisés. Notamment, je pense à un certain nombre de métiers manuels par rapport à, je dirais pas une idéologie, mais un air du temps qui valorise le technicien, le technico-commercial, le communicateur, le manager, etc.
L'artiste,
etc.
Beaucoup de gens veulent travailler dans le domaine culturel, par exemple.
Quand vous donnez ces idéaux-là, si vous voulez, les jeunes disent, mais je ne peux pas faire comme mon père, qui travaillait, par exemple, dans l'usine automobile. D'abord, ça s'appelle plus ouvrier spécialisé, ça s'appelle agent 2. On a changé les mots parce que, bon, on essaie de tenir compte. Dans le bâtiment, vous avez le même problème. Donc, on manque aussi de main-d'œuvre, d'une certaine façon. Et il est vrai que les immigrés occupent. Ça, il faut le dire. Et ça, Marine Le Pen le dit pas assez, d'une certaine façon. Elle le dit pour l'exploiter à sa manière. Mais les immigrés occupent des emplois que les Français et les jeunes Français considèrent que quand même, avec un phénomène d'exploitation de la main-d'œuvre.
Jean-Pierre Le Goff, une question à ce sujet. Vous qui êtes universitaire et professeur, n'est-ce pas justement le sens même du pacte de l'école républicaine que de permettre aux fils d'ouvriers de s'élever dans la société ?
C'était. Parce qu'aujourd'hui, il est en panne.
Quand vous avez des fils ou filles d'ouvriers qui entrent à l'école, évidemment, leurs parents souhaitent qu'ils ne soient pas comme eux, ouvriers, mais employés, voire cadres.
Oui, mais alors
question
là...
Question idiote, peut-être.
Pas du tout. Je pense qu'il faut faire attention à deux choses. Dans une période d'expansion, et quand vous partez, il faut partir de quel niveau on part. Si vous partez d'après la guerre, les mécanismes de solidarité sociale se sont mis en place à ce moment-là, d'une part. D'autre part, je dirais que beaucoup de fils de paysans, de couches moyennes ou même d'ouvriers, enfin en faible nombre, en ce qui concerne les catégories ouvrières, mais ont eu une promotion sociale.
Bon. Oui.
Il y a un problème, si vous voulez, c'est que maintenant, on en est à quatre générations depuis. Si je prends la génération, la mienne, moi, je viens d'une famille petite bourgeoise, commerçante, artisan, si vous voulez.
Oui.
Bon, j'occupe un poste arrivé à un certain niveau, et ça a été valable pour ma génération. Il y a des effets de structure. Vous arrivez à un certain niveau en haut, est-ce que vous pouvez demander pour les enfants qui suivent, de pouvoir continuer de passer au-dessus. Il y en aura quelques-uns, mais pas tous. Donc ça, c'est une première remarque. Mais la deuxième remarque est plus fondamentale. Je pense qu'il y a aujourd'hui dans la société une idéologie ou un air du temps, et la gauche devrait faire attention à pas faire du surf là-dessus, le droit à la réussite. Le droit à la réussite qui, pour moi, est quelque chose de le droit à la réussite, mais le droit à tout. Enfin, la réussite ne se décrète pas en termes de droit.
Se gagne.
Eh bien, il y a quand même avec ça, vous pouvez provoquer du ressentiment. Si vous n'êtes pas bon,
vous voulez dire qu'on dit aux gens qu'ils ont tous le droit de réussir.
Ah oui, mais c'est ce qui est dit.
Oui.
Et d'ailleurs, ça vient de quoi ? C'est la faute à l'école. D'accord. Mais enfin, moi, si vous voulez, j'ai une vision. Il faut que le maximum former des élites au sein du peuple, qui est pour moi l'idéal républicain qui demeure essentiel, ne veut pas dire le peuple entièrement occupera toutes les positions de pouvoir et que s'il n'occupe pas les positions de pouvoir, il est nécessairement dévalorisé. Je pense notamment à Simone Veil qui disait « un pays est malade quand on considère qu'être paysan, c'est moins bien que d'une certaine façon d'être agriculteur, c'est le signe d'un échec ».
Vous parlez de la philosophe.
De la philosophe, oui. Et là, je pense qu'on est dans une situation où il y a cette dimension-là.
Alors, nous avons un appel. Nous allons évidemment écouter notre auditrice ou notre auditeur, Nelly. Bonjour Nelly.
Bonjour, comme d'habitude, je dis bonjour à toute l'équipe et à tous ceux qui nous écoutent.
Merci, nous vous écoutons, chère Nelly.
Oh, merci, c'est gentil. Comme d'habitude, j'écoute votre émission.
Merci.
Encore une fois de plus, je le dis au téléphone, que c'est aberrant d'entendre la personne qui parle avec l'instinct, je pense que c'est dans l'homme, dans l'être humain, de limiter les autres. Pourquoi limitons-nous les autres ? C'est une bonne question à se poser. Pourquoi ? Parce qu'on est fils d'ouvriers ou filles d'ouvriers, on ne doit pas dépasser les parents. C'est au nom de quoi on met dans une boîte, dans une case, une personne qui ne peut pas être mieux que ce qu'elle est née.
Alors, chère Nelly, merci d'avoir posé cette question. Et notre invité, Jean-Pierre Le Goff, va vous répondre. Avant cela, évidemment, je vous souhaite un très bel après-midi.
Je vais essayer de lever le malentendu. J'en suis pas sûr de pouvoir y arriver. Mais en gros, et bien évidemment, un fils d'ouvrier peut évidemment monter, mais c'est différent de dire ça que de dire le droit à la réussite. Ce n'est pas la même idée. Ce n'est pas le droit à la réussite.
Quelle est la différence?
Ben, c'est un droit. C'est-à-dire, vous pouvez le même dans la Constitution, on n'en est pas là. Mais imaginons qu'il y ait le droit à la réussite pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne réussis pas, on ne m'accorde pas le droit. Or, quand vous regardez la question de la promotion sociale, notamment les enfants d'ouvriers, puisque c'est posé comme ça, mais il n'y a pas simplement les enfants d'ouvriers, de paysans, etc. Il y a eu tout un parcours de vie qui va derrière. Avec, ce sont des gens qui se sont battus, qui ont un effort, et moi je valorise ces gens-là, bien évidemment, parce que je pense que ce sont des élites. Alors attention, le mot élite, ça fait bondir les gens. Élite égale inégalité, puisque tout le monde n'est pas pareil, si vous voulez. Mais est-ce qu'on peut situer, la question va peut-être paraître provocante à madame, mais est-ce qu'on connaît des sociétés où tout le monde serait devenu à égalité dans la participation globale des responsabilités, etc. Il faut des hiérarchies. Ne confondons pas l'égale dignité de la personne auquel je tiens, qui à mon avis est issu de la culture chrétienne et qui a un acquis fondamental,
bien sûr, du christianisme,
avec l'égalité des compétences.
Oui.
Et moi je suis pour qu'on aille vers un développement des compétences. Et ne confondons pas l'idéal d'égalité vers lequel on doit tendre et avec l'égalité dite réelle, parce que l'égalité réelle, moi je sais qu'il y a des sociétés, des régimes
qui ont
voulu
rêvé
la mettre en place.
Oui.
Alors je pense qu'il faut faire attention à ça. Voilà ce que je veux dire. Mais je suis absolument, d'ailleurs j'ai fait beaucoup de formations dans ma vie, notamment pour essayer précisément de sortir des gens du milieu dans lequel ils sont. Mais ne répondons pas à l'illusion que c'est un droit.
Alors, Jean-Pierre Le Goff, vous êtes sociologue. Est-ce que j'ai la chance de vous interviewer et j'ai beaucoup admiré en son temps aussi Pierre Bourdieu. Je me disais, en lisant Bourdieu, en vous écoutant, je me dis quand même, les sociologues manient de la nitroglycérine. J'ai l'impression que vous manipulez, au bon sens du mot, des substances extrêmement dangereuses. On l'entend lorsque Nelly nous téléphone. Elle entend autre chose que ce que vous avez dit, non pas parce que vous êtes confus, mais parce qu'au fond, vous essayez d'expliquer des choses qui nous mobilisent intimement les uns et les autres, et qui nous mobilisent collectivement. Et c'est quand même... La sociologie est une drôle de science, non?
Ça dépend de la conception qu'on en a. Je ne vais pas discuter sur Bourdieu. Simplement, je voudrais dire une chose. C'est la question... Pour moi, la société baigne dans un certain nombre de représentations qui concernent les individus, des collectifs, sans que ces individus ou ces collectifs aient conscience, forcément, de ces représentations. Je dirais même qu'elles leur apparaissent comme naturelles. Par exemple, parler de la réussite, où est le problème?
Voilà.
Par exemple, si je parle diversité, vous voyez le mot diversité, bien évidemment je suis pour la diversité, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot égalité réelle, si vous voulez? Alors on a des notions comme ça, les gens, dans le langage, je pense qu'un... c'est comme ça que je vois la sociologie, je ne veux pas dire c'est ça la sociologie, mais il y a une dimension de recul réflexif et critique sur un certain nombre de représentations. Les représentations, c'est compliqué. Les faits, on peut les mettre à distance, les représentations ne sont rien sans nous.
Et oui,
donc là... la question du recul réflexif et critique sur un certain nombre de représentations qui nous habitent, j'allais dire, qui paraissent naturelles, est toujours un problème délicat.
Et nous habillent aussi, d'ailleurs.
Oui,
hein.
Mais soit vous vexez les gens en disant « mais vous m'attaquez moi
»,
alors qu'il m'importe, moi je respecte les personnes, ce qui m'intéresse, ce sont les idées, les représentations, les valeurs plus ou moins conscientes qui sont véhiculées et dans lesquelles on baigne. Si vous voulez essayer de faire une extraction de ça... dans, je dirais, un idéal qui est plutôt celui des Lumières. On sait que les Lumières ont abouti aussi à beaucoup de travers.
C'est en tout cas ce que disait Jean-Marie Lustiger.
Moi, je garde cet idéal-là parce que je pense que c'est indispensable. Donc voilà, c'est un peu dangereux parce qu'effectivement, il peut y avoir beaucoup de malentendus. parce qu'on dit mais c'est pas possible, vous pouvez être compris dans le mauvais camp. Je pense qu'un des grands problèmes, par exemple, de cette ère du temps sur lequel il convient de prendre un recul réflexif et critique, si on veut garder quand même une certaine forme d'idéal de citoyenneté éclairée, aujourd'hui, c'est, je dirais, je parlais du patchwork. C'est-à-dire, on peut à la fois se réclamer de la couleur, tout en se réclamant de la République. Il n'y a pas d'incohérence. L'important, c'est toujours de se sentir dans le camp du bien.
Voilà.
Et ça, ouais. C'est très inquiétant. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la discussion dans l'espace public va devenir de plus en plus impossible. C'est-à-dire, les mots agissent comme des porte-drapeaux. On entend ce mot qui peut déclencher une sorte de réflexe pavlovien. Et immédiatement, avec ce réflexe pavlovien, est-ce qu'il est pour ou contre, par exemple, l'égalité pour ou contre les discriminations? Voyez.
Mais vous connaissez l'objection à cela, c'est que évidemment, si nous laissons toutes les paroles se prononcer, s'exprimer, elles vont prendre corps, être récupérées par une femme ou un homme politique et devenir projet politique. C'est ça qui justifie.
C'est déjà le cas. Alors la question est la suivante. Moi, je suis libéral au sens politique et intellectuel du terme. Je suis pour que, enfin, en démocratie, il y a liberté de parole. N'importe comment, il y a des lois qui l'encadrent. Hein, je pense que d'ailleurs, il y a eu aussi un certain nombre de... Il faut faire attention. Mais je pense que le rôle dans la société civile doit exister des lieux où il y ait une libre parole, j'insiste, argumentée. Ce n'est pas la dénonciation simplement subjective. Un des gros risques de la période, c'est au nom de la liberté, c'est la logique du bouc émissaire et la logique des camps. On a besoin, je pense, par rapport à des défis qui sont compliqués, et si on ne les traite pas raisonnablement, et je pense à l'immigration par exemple, eh bien ils vont être traités irrationnellement dans une logique de surenchère et de démagogie xénophobe.
Isabelle nous téléphone. Bonjour Isabelle.
Oui, bonjour monsieur. Je téléphone pour dire, c'est un peu décalé par rapport à ce que vous êtes en train de dire, mais au point de vue montée dans les élites, bon, il y en a qui montent, mais il y en a aussi qui descendent. Et vous n'avez pas parlé.
Et oui. Donc, alors, voilà. Comme il nous reste 3 minutes, nous allons en parler. Et bien entendu, je vous souhaite un très bel après-midi aussi.
Au revoir.
Merci.
Non, je pense qu'il y a un problème particulier, c'est on appelait ça les classes moyennes, qui se sentent, qui regardent toujours au-dessous d'eux, et qui disent, mais qui ont une peur, si vous voulez, de descendre d'une certaine façon et de se retrouver en bas. Ça, c'est un phénomène assez nouveau qu'on n'avait pas avant. Mais c'est vrai qu'il y a des élites qui descendent. Enfin, oui. Moi, ce qui m'importe, si vous voulez, par rapport à ce qui existe, c'est la formation même des élites. C'est pas le mot élite. C'est ils viennent d'où, si vous voulez. Et c'est aussi un idéal, hein, un idéal. Mais il importe que les élites ne se reproduisent pas à partir d'une même catégorie sociale. Il importe que là, je suis pour la lutte contre les inégalités et articuler la lutte contre les inégalités dans le champ économico-social avec les inégalités culturelles et les inégalités en termes, j'allais dire, de représentation politique, d'implication dans la politique. Donc, pour moi, mes idéaux, parce que là, je sors du cadre sociologique.
Oui.
Mais c'est ça, vous voyez, essayer de former des élites issues du peuple. Et on en a vraiment besoin.
Merci beaucoup, Jean-Pierre Le Goff. On vous écoutera encore pendant une heure, mais nous n'avons plus le temps. Merci beaucoup. Alors, chers auditeurs, comme chaque semaine, je vous propose de découvrir le journal Réforme. De quelle façon? Mais la chose est très simple. Il vous suffit de composer le numéro de téléphone 01 43 20 32 67. 01 43 20 32 67. Mais parce que vous adorez surfer sur le web, je veux dire taper sur le clavier de votre ordinateur, je vous propose une adresse www.reforme.net. www.reforme.net. On vous fera découvrir le journal en vous envoyant 3 numéros gratuits et je suis sûr que vous aurez envie de vous abonner. Vous allez découvrir le site que tient mon camarade Louis Fraisse et vous allez devenir geek en téléchargeant le journal sur votre iPod, iPhone, iPad, je ne sais plus. Enfin bref, ça va être formidable. Je vous souhaite évidemment une très belle semaine et vous dis à jeudi prochain.